ouvrir vos Bibles avec moi. Nous allons faire quatre très courtes lectures, dont la première est dans le livre des Nombres, au chapitre 6, juste le verset 24. Livre des Nombres, chapitre 6, le verset 24. Très court, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. C'est tellement court que j'ai envie de le répéter. Hein? Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Puis, lecture légèrement plus longue dans Premier Livre des Rois, chapitre 19, nous allons lire le verset 3 et 4. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez, maintenant, « Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Puis nous allons aller dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 13 et 14. Éphésiens 6, 13 et 14. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Et enfin, un tout dernier verset dans l'Épître de Pierre, au chapitre 5, premier Épître de Pierre, chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Je vais commencer la méditation de la parole de Dieu ce soir par vous rapporter un fait divers authentique qui s'est passé exactement le 12 septembre 1997 dans la ville de Bogota, qui est la capitale de la Colombie. Depuis déjà quelque temps, un groupe de policiers avait encerclé un certain édifice dans lequel des malfaiteurs avaient trouvé un refuge en ayant à leur disposition des otages qu'ils avaient saisis. Mais ce jour-là, il y avait un match de football très important et tous ces malfaiteurs étaient là en train de regarder ce match qui les intéressait énormément. Et puis, à un moment donné, il y a eu des cris de joie, une exaltation formidable parce que le but de la victoire avait été mis par l'équipe qu'ils aimaient, en particulier leur équipe favorite. Et ils avaient placé effectivement aussi quelques personnes qui étaient là faisant fonction de sentinelles, mais ces sentinelles avaient en même temps les yeux sur le match de foot qui se déroulait à la télé et puis regardaient à l'extérieur pour voir si quelque chose ne se passait pas de nouveau. Mais quand il y a eu cette liesse générale, alors les policiers en ont profité pour très rapidement défoncer la porte et puis s'emparer à la fois des malfaiteurs et des otages. Et vous pouvez imaginer, comme moi, que la joie débordante qu'ils avaient après ce but de la victoire a été remplacée par l'amertume de la défaite surprise. Ceci, je le dis parce que nous avons tous à nous méfier des vapeurs d'encens qui émanent de certaines de nos victoires. Alors que nous ne devrions jamais oublier que chaque victoire remportée par nous, nous la devons à notre Seigneur. Parce que la victoire n'est possible que par sa grâce. Et des fois, l'encens de la victoire nous permet une certaine exaltation, qui enivre notre esprit et puis l'expose au risque d'une plongée rapide dans les marées de la déprime. Et c'est exactement ce qui est arrivé à cet homme de Dieu remarquable, dont la Bible, par ailleurs, comme vous le savez, dit que c'était un homme de la même nature que nous. Et il a vécu un moment d'exaltation formidable. Il a vécu un moment extraordinaire où il a pu voir la main de Dieu intervenir. Vous savez, comme moi d'ailleurs, que lorsqu'il se trouvait sur ce mont particulier du Carmel, où il avait convoqué les 450 prophètes de Baal, il a invoqué le nom de l'Éternel après avoir redressé un autel qui avait été entièrement démoli par ces prophètes qui de Baal, des faux prophètes qui étaient là, et il a invoqué le nom de l'Éternel en demandant qu'il réponde par le feu. Et quand le feu est descendu, alors il y a eu une grande joie parmi le peuple de l'Éternel, puisqu'il est dit qu'à ce moment-là, tous ceux qui entouraient le mont Carmel ont crié « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu ». Et en même temps, Élie, qui venait de faire cette expérience formidable, a pu se tourner vers le roi Achab, qui était aussi un spectateur de ce qui était en train de se produire. Et il lui a simplement dit ceci, « Dépêche-toi, il y a un bruit qui annonce la pluie ». Et vous savez que Élie était tellement rempli de joie, rempli de force, qu'il a accompli un marathon extraordinaire. Après avoir invoqué le nom de l'Éternel pour que le feu descende, il a prié aussi pour que la pluie descende. Et au moment où il s'est rendu compte que Dieu allait exécuter ce qu'il venait de demander, alors il a couru devant le char d'Achab et il a réalisé un exploit formidable. Là, il devait y avoir, vous vous en doutez, une joie très grande dans son cœur. C'était le commencement d'une victoire pour le peuple de Dieu. C'était le commencement d'un changement complet pour la religion qui était pratiquée par le peuple d'Israël, une religion, je dirais, froide, une religion routinière, faite de sacrifices, mais dont le cœur ne partageait pas une véritable affection pour Dieu. Et là, Élie a reçu une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que Jézabel a fait une promesse. Et elle a dit qu'elle voulait absolument que Élie ait sa tête retranchée. Et quand il a appris cette nouvelle-là, alors il a sombré dans une dépression. J'aimerais dire ce soir que nous ne devrions jamais oublier que lorsque Dieu nous accorde une victoire, il y en a un autre qui connaît une terrible défaite. Et cet autre qui connaît la défaite, c'est l'ennemi de notre âme. C'est celui dont Pierre nous présente sa personne en ces termes en disant « Attention, il y a autour de vous un lion rugissant qui cherche à dévorer quelqu'un. Et nous ne devons jamais oublier, effectivement, que le malin est toujours prêt à apporter une contrepartie à ce que Dieu nous accorde dans sa grâce et dans sa miséricorde. Ce n'est certainement pas pour rien que dans cette formule de bénédiction qui a été donnée à Aaron et à ses enfants pour qu'ils bénissent le peuple de Dieu et que nous avons trouvé dans le livre des Nombres, la formule est plus longue que ce que nous avons lu. Mais cette formule commence par cela, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Nous pourrions imaginer que lorsque quelqu'un est béni de l'Éternel, il est à l'abri de choses mauvaises, difficiles à endurer. Mais dans cette formule, c'est bien mis en évidence. Et je pourrais dire ce soir que nul n'a plus besoin d'être gardé de Dieu que lorsqu'il est béni de la part de l'Éternel. Parce qu'il y a une rage qui se fait dans le cœur de l'ennemi de notre âme, de Satan. Et c'est la raison pour laquelle, juste après les bénédictions que nous pouvons recevoir de la part de Dieu, lui, il essaie de nous donner un coup qu'il désire mortel. Mais nous allons voir aussi qu'il y a pour nous la possibilité, à notre tour, même dans la difficulté, dans l'épreuve, dans les coups durs, dans les déboires de la vie, de trouver un refuge auprès de notre Dieu. Est-ce que nous pouvons trouver quelques exemples dans la parole de Dieu qui pourrait souligner cette vérité que j'ai déjà placée devant vous en cette soirée? Eh bien, rappelons-nous ensemble, pendant que Moïse était sur la montagne et qu'il recevait la révélation de la demeure que l'Éternel voulait avoir au milieu du peuple de Dieu, je parle bien sûr du tabernacle, eh bien, en même temps, que Dieu était en train de raccorder cette révélation particulière à cet homme de Dieu remarquable qu'est Moïse. Bien, le peuple, lui, était sous l'influence du malin et nous savons qu'il était en train de construire un veau d'or. Et quand Moïse est descendu, je dirais, de la montagne, quelle surprise, n'est-ce pas? Et quel coup dur de la part de l'adversaire. La joie a dû, pendant un temps, eh bien, disparaître de son cœur. Et d'ailleurs, la Bible est très claire et nous dit qu'il s'est enflammé de colère. Et vous savez quel a été son comportement à l'égard de ce fameux veau d'or. Et il a bien fait d'agir comme cela. Mais il n'en reste pas moins vrai que finalement, dans son cœur, il y avait un coup désastreux qui avait été porté par l'ennemi de son âme. Quand l'apôtre Paul s'adresse à l'église d'Éphèse, et nous avons lu un passage concernant cette lettre qu'il adresse à l'église d'Éphèse, Paul aborde le thème du combat spirituel du chrétien contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il dit à un moment donné, afin de pouvoir résister dans les jours mauvais, et il dit tenir ferme après avoir tout surmonté. L'expression pourrait être traduite d'une manière différente, c'est-à-dire après avoir vaincu dans beaucoup de domaines, avoir bien réalisé des exploits, après avoir tout fait comme cela, il faut encore tenir ferme. Parce que c'est après ce qui nous paraît être une victoire finale que le malin, lui encore, peut déployer ses efforts pour nous permettre de connaître des moments très difficiles à vivre. Enlever la joie de notre cœur, ternir la joie que le Seigneur veut mettre par son esprit et remplacer cela par une certaine amertume et une certaine tristesse. J'ai remarqué dans l'Écriture une locution qui revient assez souvent et qui se trouve d'ailleurs notamment dans les livres historiques comme le livre de Samuel, le livre des Rois ou également le livre des Chroniques. Cette expression, vous la connaissez bien. Il est dit parfois « après ces choses » ou « après ces actes de fidélité » ou « après que » ou « après tout cela ». Eh bien, essayons de voir ce qui se trouve après cette locution quelquefois. Je lis « après qu'Abraham fut vainqueur d'une bataille contre une coalition de rois qui s'était emparé de son neveu. » Je dis bien « après qu'il ait remporté la victoire, que lui est-il arrivé ?» Eh bien, il voit arriver un certain personnage, et ce personnage, eh bien, il est mentionné dans l'Écriture, notamment dans le livre de la Genèse, c'est le roi de Sodome. Et le roi de Sodome vient d'une manière très subtile pour quoi faire ? Tout simplement essayer de détourner Abraham de la voie, de la fidélité à son Dieu, de cette droiture de cœur qui était la sienne. Et qu'est-ce qu'il lui propose ? Il lui propose de faire un échange. Il lui dit, je te couvre d'or. Si tu me donnes les personnes qui sont avec toi, je te couvre d'or. Vous savez comment Abraham a, lui, triomphé ? Parce qu'il veillait. Il savait que le lendemain d'une victoire, c'est peut-être dangereux. Et là, lui, il avait les yeux fixés sur Dieu. Il a dit, non, je ne veux rien. Je ne veux même pas un lacet de toi. Rien du tout. Et nous savons que le roi de Sodome, c'est un symbole du roi de ce monde. Et l'adversaire de notre âme, il est soit un lion rugissant, soit un subtil serpent qui rampe, nous faisant des propositions alléchantes pour essayer de nous éloigner de la voie de l'obéissance à la parole du Seigneur. Je voudrais citer d'autres exemples. Vous savez, comme moi, c'est après une série de riches bénédictions que Dieu a accordées à cet homme remarquable qui s'appelle Joseph, qu'il a subi les assauts diaboliques, je dirais, de cette femme pervertie, qui était la femme de Potiphar, qui n'avait qu'un seul but, éloigner Joseph de la fidélité à Dieu, l'éloigner de cette voie de pureté, de cette voie sainte. Elle n'avait qu'un seul désir, c'est le plonger dans le péché. Elle était entre les mains de Satan, un instrument redoutable. Mais Joseph, par l'amour qu'il avait pour Dieu, parce qu'il veillait après les lendemains de victoire, il a su dire, mais comment pourrais-je commettre un si grand péché devant l'Éternel ? Cet homme est resté vraiment fidèle et je dirais, il a tenu bon. Après avoir surmonté, il a tenu bon. Dans les mauvais jours, il a été fidèle et Dieu l'a gardé. Je dirais, c'est après le miracle, vous vous souvenez aussi bien que moi d'ailleurs, accompli auprès de cette femme qui est la veuve de Sarepta. Quel miracle formidable! L'huile et la farine, avez-vous remarqué, l'huile elle manque en ce moment, hein? Mais l'huile et la farine pour elle n'a jamais manqué. Pourtant il lui restait que très peu de choses. Et le miracle s'est accompli, parce que la parole du prophète s'est également accomplie pour elle. Elle a placé sa confiance en Dieu. Elle a vu le miracle quotidien s'opérer devant ses yeux. Mais après cela, que nous dit l'Écriture ? Eh bien, son fils est tombé malade, gravement malade, et il est mort. Voyez, le diable vient toujours après pour essayer de saper les joies que Dieu nous accorde au travers de certaines victoires. Je poursuis un instant encore. C'est après les actes de fidélité, nous dit l'Écriture, du roi Ézéchias, que dans le contexte d'un réveil spirituel qui est formidable dans le royaume de Juda, que Sanchérib, l'ennemi, le roi d'Assyrie, pénètre en Juda et il n'a qu'un seul désir. Il envisage de s'en prendre à la ville de Jérusalem et d'attaquer cette ville-là. Mais heureusement, là encore, nous avons un homme qui a su être fidèle, garder les yeux fixés sur Dieu. Et malgré certainement la peine qu'il a dû avoir, quand il entendait cet homme s'adresser même directement à ceux qui étaient dans la ville de Jérusalem, sur lesquels il veillait, et le roi de la Syrie, eh bien, s'adresser en langue hébraïque à ses enfants d'Israël qui étaient dans la ville. Et quand Ézéchias entendait cela, son cœur devait souffrir, d'autant plus que le roi de Syrie disait « Attention, ne placez pas votre confiance dans cet homme, parce que qu'est-ce que les autres dieux des autres nations ont pu faire? J'ai été vainqueur dans tous ces endroits-là, et ne vous imaginez pas que parce que vous croyez les paroles de ce roi, vous aussi, eh bien vous allez être vainqueur. » Et nous savons ce qui s'est passé, parce que le roi est resté fidèle à Dieu, il a triomphé des attaques de l'ennemi. Nous pourrions continuer longtemps à citer beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, par exemple, Gédéon remporte une victoire sur Madian. Et demain, ce même personnage qui, entre les mains de Dieu, remporte la victoire sur Madian, fabrique un éphod d'or, objet d'un culte idolâtre. Vous voyez comment certains, pourtant des meilleurs, peuvent tomber dans les pièges du malin. Aujourd'hui, le peuple de Dieu remporte une victoire sensationnelle, formidable, dans la ville de Jéricho. Les murailles tombent, s'effondrent. Quand je dis que le peuple a remporté la victoire, vous comprenez tous, n'est-ce pas, qu'il ne pouvait pas faire grand-chose si Dieu lui-même n'était pas intervenu. Mais quelle joie, certainement pour tous les enfants d'Israël, quand ils ont vu ces murailles tomber, s'écrouler, qu'ils ont pu s'emparer de cette ville et des habitants pour les dévouer par interdit, comme Dieu leur avait demandé de le faire. Aujourd'hui, Jéricho, grande victoire. Demain, Haï, est une terrible défaite. Pourquoi? Parce que peut-être, enivrés par le sens de la victoire d'hier, ils n'ont pas été suffisamment attentifs et le diable en a profité pour les conduire dans une voie désastreuse. Continuons encore. Regardez David, terme, race Goliath, victoire éblouissante. Il y a une grande joie parmi le peuple d'Israël, lui-même. Imaginez un petit peu ce qu'il a pu ressentir à l'intérieur de lui-même quand il a vu qu'Israël était enfin délivré de l'emprise des Philistins, qu'il a vu ce grand géant être terrassé. Quelle joie dans son cœur! Aujourd'hui, ça. Demain, Saül, enivré de jalousie, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une lance et il veut clouer David à la paroi. Heureusement, Dieu est avec David, et David peut échapper. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Maintenant, je voudrais simplement que nous puissions, pendant un temps, fixer les regards sur Jésus. Lui aussi a connu un jour merveilleux. Je dirais que pour lui, tous les jours étaient merveilleux. Mais regardez, quel jour extraordinaire! Le jour où, pour nous montrer la voie, pour nous montrer le chemin, il a accepté de descendre dans les eaux du baptême. Et ce jour-là, la Bible me dit que le ciel s'est ouvert au-dessus de sa tête, et que le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, est descendu sur lui. Mais quel émerveillement! C'est dans Marc au chapitre 1er, versets 12 et 13, quand il a pu entendre cette voix, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, écoutez bien, aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il fut tenté pendant 40 jours par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Je vous fais remarquer simplement cette phrase. Dieu parle. Il dit, ça c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais aussitôt, le Saint-Esprit le pousse dans le désert. J'ai voulu chercher un petit peu quelle est, je dirais, la force de ce verbe qui est utilisé et traduit par cette expression « aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert ». Et ce verbe signifie « jeter hors d'eux ». Il aurait pu être traduit de la manière suivante. Il fut comme chassé. Mais écoutez bien, le Père a pris l'initiative cette fois, et non le diable. Et cette fois, le Dieu souverain, eh bien, se montre comme n'étant pas absent de tous les moments difficiles que nous pouvons traverser. Il a rendu témoignage à son Fils, et même quand par l'Esprit de Dieu il a été poussé dans le désert, Dieu était là. Jésus est Dieu. Dieu, et il a triomphé par quel moyen? Par le moyen de la parole. Parce qu'il était saint de vérité. Il est la vérité. Et par la vérité, il a triomphé de l'ennemi de notre âme. Il l'a terrassé. Vous voyez, j'apprends aujourd'hui à ne pas me laisser griser par certaines choses heureuses qui peuvent m'arriver dans la vie. Et mes frères et sœurs, ce soir, c'est mon exhortation de vous dire très simplement, mais du fond du cœur, attention, ne vous laissez pas griser par certaines victoires qui vous paraissent comme telles et qui vous sont accordées certainement de la part de Dieu. Mais attention, parce que c'est justement au moment où il y a une grande joie dans votre cœur à cause de ce que Dieu vous a permis de réaliser, d'accomplir ou de comprendre, de saisir, que le malin peut se manifester. Et nous ne sommes pas à l'abri de ces choses-là. Mais vous savez, la parole reste et demeure notre seul et unique moyen de terrasser l'ennemi de notre âme. En fait, je me suis dit que quand Dieu parle à mon cœur au travers de certains moments d'exaltation, comme au travers de certains moments de souffrance, c'est que Dieu est en train de m'enseigner qu'il faut que j'apprenne à le remercier pour les beaux jours, comme pour les mauvais jours. Parce que c'est lui qui tient tout dans sa main. Et aujourd'hui, je sais, Christ est vivant. Il ne change pas. Et celui qui a triomphé dans le désert, c'est celui qui, en chacun d'entre nous, peut triompher de toutes les attaques qui viennent de la part du malin. Je vais terminer par un dernier exemple tiré de la parole de Dieu. Peut-être même deux. Imaginez un petit peu ce qu'ont connu Pierre, Jacques et Jean lorsqu'ils étaient eux aussi sur la montagne de la transfiguration. Imaginez cette joie immense et comment en redescendant, puisque c'est les trois personnages qui sont cités, qui ont accompagné Jésus sur cette montagne, comment ils devaient être pleins d'exaltation. Ils venaient de voir une scène formidable. Celui qu'ils considéraient comme un simple homme vient d'être révélé à leurs yeux comme étant le Dieu Tout-Puissant. Jamais ils avaient pu voir un spectacle pareil. Ils descendent de la montagne et ils sont confrontés à quoi ? À un monsieur qui vient, un papa, avec un enfant qui est possédé d'un esprit malin. Et les disciples sont là, vraiment saisis, et ils ne savent quoi faire. Heureusement que Jésus est intervenu et que la victoire a été remportée, non pas par Pierre, Jacques et Jean, qui venaient de faire une expérience formidable, mais par Jésus, qui lui a tout pouvoir sur la puissance des ténèbres. Et maintenant, je pourrais ajouter le dernier exemple. Imaginez la joie de tous les disciples quand il y a eu cette grande manifestation du pouvoir de Jésus qui a multiplié le pain, donné à manger à une foule immense, et ceci avec juste quelques pains. Vous imaginez un peu ce qu'ils devaient penser, les disciples. Ils devaient se dire, mais vraiment, celui-là, c'est celui dont Israël a besoin. C'est vraiment le roi de gloire. C'est vraiment lui qui doit être sur le trône. Ils imaginaient les choses les plus extraordinaires. Et dans un premier temps, Jésus n'était pas venu pour cela. Mais eux le pensaient, très certainement. C'était quelque chose de faramineux pour eux. Bien, vous savez ce que dit la Bible ? Vous trouvez ça aussi dans les évangiles, et notamment dans l'évangile de Matthieu. Jésus les oblige à prendre une barque et à traverser le lac. Et qu'est-ce qu'ils connaissent ? Une grande tempête. Au point même qu'ils croient qu'ils sont perdus. Et ils sont là, affolés. Ils rament contre le vent impétueux. Heureusement, Jésus est sur la montagne. Et moi, j'imagine, il priait pour eux, pour chacun d'eux. Il savait ce qu'il allait faire. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait ? Il descend de la montagne et il commence à marcher sur les eaux pour permettre à l'un d'entre eux de saisir juste pendant quelques secondes que quand on a les regards fixés sur lui, on peut triompher des plus terribles tempêtes. Et d'ailleurs, c'est Pierre qui était effrayé dans l'angoisse après la joie qu'il y avait eue sur le mont de la Transfiguration. Là, il y avait la crainte de la mort, l'angoisse, la terreur. Eh bien, là, Pierre voit arriver ce personnage marchant sur les eaux. Vous connaissez le passage aussi bien que moi. Il s'imagine. C'est peut-être un fantôme, certains le disent, mais lui, il dit, quand Jésus a prononcé cette parole, « N'ayez pas peur, c'est moi. » Pierre ose dire, « Bien, si c'est toi, ordonne que je marche comme toi sur les eaux. » Vous ne croyez pas que ce serait une prière pour nous ce soir ? Peut-être tu es dans une tempête, peut-être tu es dans un moment difficile, peut-être tu connais des situations troublantes, peut-être il peut y avoir l'angoisse dans ton cœur, peut-être la crainte pour le futur, mais tu peux dire, Seigneur, toi, tu es le maître de toutes les circonstances et il ne permettra jamais que les pires circonstances, si nous lui faisons confiance, à une condition. Pierre avait les regards sur Jésus et tant qu'il a eu les regards sur Jésus, il a marché, oh, ça a duré quelques secondes. Mais enfin, j'aurais bien voulu faire cette expérience. Quelques secondes, mais quelle expérience quand même. Vous vous rendez compte? Vous avez déjà essayé de marcher sur l'eau? Eh bien, c'est formidable ce qu'il a réalisé. Sauf qu'à un moment donné, le bruit du vent, le vacarme de ces vagues qui se soulevaient de toutes parts, tout cela l'a effrayé. Il a détourné les regards de Jésus. Et là, il a commencé à s'enfoncer. Heureusement, le maître était là. Parce qu'au moment où il a crié, « Seigneur, sauve-moi !» Ah, c'est formidable. J'ai entendu plusieurs dire, « Le Seigneur est attentif aux cris de nos cœurs. Il est attentif à nos prières. » Et nous sommes venus pour prier ce soir. Et si nous lui disons, « Seigneur, dans telle situation, dans telle circonstance, là où le malin veut faire une contrepartie de tout ce que tu m'as accordé dans ta grâce, qu'il veut me rouler dans la farine, il veut me tenir dans la terreur. Seigneur, sauve-moi. Eh bien, le Seigneur le fera, parce que nous avons un Dieu tout-puissant. Jésus est vivant. Et j'aimerais que chacun puisse prendre conscience. Nous ne sommes pas ici pour invoquer une idole, nous sommes ici pour invoquer le Dieu vivant et vrai, pour qui la Bible déclare « tout est possible ». Prions.